Il y a un an, le 22 février, les Algériens descendaient massivement dans la rue pour protester contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le 1er mars 2019, les manifestations mobilisaient 3 millions de personnes. Un mois plus tard, le président démissionnait. Le 12 décembre dernier, Abdelmadjid Tebboune remportait l'élection présidentielle. Et hier, à deux semaines du premier anniversaire de ce qu'on appelle le Hirak, le mouvement de contestation algérien, le pays a de nouveau investi les rues, comme chaque vendredi, pour exprimer son rejet de la classe politique et réclamer un véritable changement de paradigme politique en Algérie. Ce vendredi était le 51e consécutif de mobilisation populaire. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien. On dit maintenant dans votre livre qui vient tout juste de paraître, Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika chez Bayard, que vous êtes un historien majeur du XXe siècle. Attention, ça signe la sagesse, ça. Auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie et l'histoire du Maghreb, La gangrène et l'oubli, Les trois exils, plein d'autres. Vous avez présidé le Conseil d'Orientation du Musée National de l'Histoire et de l'Immigration, dont vous venez tout juste de démissionner. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais évidemment, je voudrais qu'on commence sur l'Algérie. Ces manifestants à Alger et dans différentes villes d'Algérie hier ont scandé les slogans habituels maintenant. Contre le pouvoir en place, un état civil et non militaire, réclame-t-il, la bande doit partir. Est-ce que ça veut dire que le mouvement ne s'est vraiment pas éteint avec la démission de Bouteflika? Ça n'a pas suffi à calmer la contestation?
Oui, effectivement, le mouvement ne s'est pas éteint parce que ce n'est pas un simple mouvement, c'est une révolution pour moi. Comme je l'ai écrit dans cet ouvrage, c'est une révolution citoyenne, pacifique et démocratique. Et vous savez, lorsqu'une révolution commence, elle met en mouvement des centaines de milliers de personnes et bouscule toutes les règles établies par la société et naturellement toute une série de forces politiques, de membres de l'appareil d'État, de morceaux d'appareil d'État sont placés sur la défensive. Et on a une sorte de force qui prend conscience d'elle-même, qui s'encourage elle-même et qui ne veut pas lâcher prise par rapport à ce qu'elle a vécu depuis des années et des années, c'est-à-dire en fait l'existence d'un système autoritaire, arbitraire, qui muselait la liberté d'expression, empêchait les expressions citoyennes et syndicales, muselait bien sûr toute une série de journaux, etc. Je ne vais pas ici faire la liste. Et donc cette force de ce mouvement ne peut pas retourner dans son lit, pourrait-on dire. On ne peut pas l'évacuer par un coup de baguette magique, par simplement des mesures constitutionnelles prises d'en haut. Il faudra beaucoup plus de temps, beaucoup plus, disons, de mesures, beaucoup plus de discours, beaucoup plus d'actes véritables prises par les autorités ou par ceux qui prétendent se substituer aux autorités pour que ce mouvement puisse s'arrêter. Il ne s'arrêtera pas par un coup de baguette magique, ce n'est pas possible. Il est beaucoup trop profond parce que n'oublions pas quand même que des millions d'Algériens ont manifesté dans toutes les villes d'Algérie pendant des mois et des mois, dans toutes les villes d'Algérie. Et vous savez, l'Algérie est un immense pays. Et dans le fond, on ne peut pas estimer que c'est un mouvement passager qui s'arrêtera un jour, comme par enchantement, une fois que telle ou telle revendication corporatiste ou particulière aura été satisfaite. Ce n'est pas un mouvement corporatiste de revendication particulière.
Est-ce que malgré tout, Benjamin Stora, l'Algérie de ce début 2020 est déjà différente de celle du début 2019?
Oui, je pense, parce que le mur de la peur est tombé. Bien sûr, ça a déjà été dit avant moi par beaucoup d'autres, intellectuels, écrivains, etc. Parce que, encore une fois, cette force manifestée par ce mouvement fait qu'il y a une très grande assurance qui existe chez les citoyens algériens, chez les hommes et les femmes aussi. On en reparlera peut-être, de la place des femmes dans ce mouvement qui est nouveau, qui est extrêmement important. Et personnellement, je vois mal comment l'Algérie pourrait revenir aujourd'hui à un système, par exemple, avec un parti unique, le FLN, un syndicat unique, l'UGTA. Cette question de l'unicité, disons, et ce refus du pluralisme, est quelque chose de proprement impensable aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a eu un saut, un seuil, disons, qui a été franchi. Et si on veut revenir en arrière, ça se fera dans de grandes difficultés. Et là, bien sûr, les Algériens sont suffisamment matures pour faire en sorte que ça ne se produise pas. En d'autres termes, cette révolution, elle est aussi une révolution pacifique sur la base de l'expérience de la terrible guerre civile des années 90, qui a fait, comme on le sait, des dizaines de milliers de morts et qui a laissé des traces très profondes dans la mémoire, dans le vécu des Algériens, une sorte de mémoire blessée, bien sûr, très importante, et qui veulent absolument éviter le retour de la violence comme moyen de régler les problèmes politiques.
C'est ce caractère inédit, pacifique, sans violence ni débordement, qui en fait, selon vous, le bouleversement le plus important depuis l'indépendance. Ça va être émouvant d'ailleurs pour l'historien que vous êtes, qui a assisté à de nombreuses années de l'histoire de l'Algérie, de voir ça.
Ça fait 40 ans que je travaille sur l'histoire de l'Algérie, c'est pas d'aujourd'hui bien sûr, puisque j'ai commencé à travailler dans les années 70 sur l'histoire intérieure algérienne, en particulier, par, vous le savez, par la biographie que j'ai pu faire de Messa Alliade ou de Ferhat Abbas, qui ont été des grands leaders algériens, et d'ailleurs, et je peux que m'en réjouir, les mots d'ordre, les slogans avancés par ces deux vieux leaders historiques sont revenus portés par des jeunes générations. C'est ça qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup intéressé. Bien sûr, avec Ferhat Abbas qui avait sorti son livre « L'indépendance confisquée » en 1984, c'est ce mot qui est revenu parmi les manifestants, les jeunes manifestants algériens, ou même le mot d'ordre de l'Assemblée constituante qui avait avancé Messali dans les années 20-30 et qui à nouveau est brandi par les jeunes générations comme étant un moyen permettant de sortir, disons, de la crise actuelle. Donc c'est quand même très intéressant de voir effectivement que il y a eu une sorte d'expérience accumulée pour parvenir à l'état de droit, parce que le sentiment existe chez beaucoup d'Algériens que dans le fond, de la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on n'a pas connu d'état de droit, en fait, fondamentalement depuis très longtemps. C'est-à-dire que la question de la démocratie politique, du pluralisme et du passage à l'état de droit est une revendication extrêmement ancienne, y compris à l'intérieur du nationalisme algérien, et il y a eu d'autres, bien sûr, partisans de ce nationalisme qui n'étaient pas partisans du pluralisme, qui étaient partisans du parti unique, de l'homogénéité de la nation, et donc, par conséquent, de brimer les minorités qui pouvaient exister à l'intérieur de cette nation. Donc, c'était pas un projet unanime, mais c'était un projet porté par des fractions importantes d'Algériens, mais qui, aujourd'hui, trouve un écho très large dans la société. Cela ne se fera pas sans difficulté, je préfère le dire tout de suite. Il y a de la conflictualité, il y a des problèmes, disons, d'apprentissage démocratique, c'est-à-dire d'accepter la parole des autres, d'accepter les désaccords, d'accepter les paroles prononcées par des intellectuels, des écrivains ou autres avec lesquels on n'est pas d'accord. Malheureusement, il y a encore beaucoup de violence verbale dans l'expression de désaccords, ce qui est dommageable pour permettre et faire en sorte que ce mouvement démocratique puisse véritablement s'installer dans la société algérienne.
On parle aussi, Benjamin Stora, d'une répression continue de la part du gouvernement. Cette semaine, le président Tebboune a décrété deux grâces présidentielles, mais ces grâces n'ont touché aucun détenu politique et d'opinion, à part peut-être le plus jeune détenu du mouvement Hirak, il a 17 ans, qui a été libéré mercredi à Oran, mais reste ou resterait des dizaines de détenus de ce mouvement qui ont été remis en liberté provisoire début janvier, mais quand même 142 personnes seraient encore en détention provisoire, 1300 personnes seraient poursuivies. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement actuel a peur de la force de ce mouvement et qu'il reste prudent, mais quand même on les tient sous sa coupe?
Alors d'abord, à ma connaissance, je me trompe peut-être, je crois qu'il y a 6000 détenus qui ont été libérés.
Oui.
C'est quand même un chiffre important.
Mais pas du mouvement de contestation, des détenus qui ne seraient pas des
détenus. Il y a déjà eu des grâces par le passé, mais une grâce de cette ampleur, c'est quand même très important. Il y a des détenus aussi qui ont été libérés, donc qui avaient appartenu à ce mouvement, notamment pour avoir brandi l'emblème Amazigh. Donc il existe des gestes politiques calculés, bien entendu, par le haut, pour faire en sorte de répondre, disons, à ces revendications populaires. Et mais vous avez raison de dire que ça ne veut pas dire que ce pouvoir actuellement en place a satisfait l'ensemble des revendications. Peut-être, et c'est le sentiment d'un grand nombre d'Algériens, peut-être essaie-t-il de gagner du temps, d'essayer d'asseoir, disons, son pouvoir politique dans une situation, encore une fois, qui est une situation fragile, instable, révolutionnaire et de doute. Et donc, on a effectivement toute une série de manœuvres et de gestes politiques qui viennent d'en haut. La question quand même, c'est qu'il faut en prendre acte, à mon avis, comme une évidence, il faut quand même le dire, parce que sinon on va pas pouvoir continuer à considérer qu'il ne se passe jamais rien et qu'il faut continuer comme avant. Donc il y a des gestes qui sont faits, mais le problème c'est qu'il faut que tous ces gestes qui soient faits, y compris la question de la Constitution, doivent se faire dans un processus de dialogue permanent avec le mouvement actuellement en cours. Ce qui ne semble pas être le cas, parce que ce que décide en fait le pouvoir politique actuellement en place, c'est de décider par en haut quel interlocuteur il choisit, disons, pour engager ce type de réforme constitutionnelle et politique. Alors que on pourrait se donner la possibilité de commencer à discuter avec ceux qui se regroupent y compris en proposant une sorte d'alternative politique. C'est le cas du pacte du Forum d'alternative démocratique, hein, donc qui s'est réuni récemment, regroupant un certain nombre de formations de l'opposition, qui existe, une vieille opposition algérienne, bien sûr, et qui eux, réclament, demandent, disons, d'être beaucoup plus entendu et écouté par rapport à ce qui se passe dans la rue, dans ce mouvement, plutôt que les décisions viennent par en haut, sans arrêt, hein, de manière verticale, sans consultation préalable.
Vous disiez, Benjamin Stora, qu'on voyait ressurgir dans la rue, par les jeunes, des slogans qui appartiennent à l'histoire, à des grandes figures historiques sur lesquelles vous avez travaillé et écrit. Comment regardez-vous précisément cette réappropriation de slogans historiens? Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle guerre d'indépendance aussi qui se joue dans la tête de certains jeunes, une guerre d'indépendance interne en particulier, qui retravaille? Comment vous placeriez ce mouvement de contestation en cours dans le temps long, disons, du mouvement de libération nationale du pays?
Ben, disons que c'est assez passionnant, bien sûr, pour un historien de voir comment une société se réapproprie une partie de son histoire alors que l'histoire s'accomplit elle-même et dont on ne connaît pas la fin. Donc c'est quand même passionnant à vivre, hein, pour un historien comme moi qui travaille depuis très longtemps. Je dirais que parmi tous les mots d'ordre qui sont avancés, il en est un qui est particulièrement important et qui a été avancé dans la guerre d'indépendance elle-même et qui est toujours à l'ordre du jour, c'est ce mot d'ordre de la séparation du politique et du militaire. Cette question, disons, de la primauté du politique sur le militaire était déjà débattue dans les années 56, 58, 60. Et on le sait, en fait, ce sont ceux qui avaient les armes qui ont pris le pouvoir en Algérie. Bon, ensuite, il y a eu le coup d'État de 65, etc. Donc, cette question de vieilles revendications démocratiques reste à l'ordre du jour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers ces vieilles revendications, il y a aussi les figures, les acteurs, les portraits, disons, de ceux qui avaient incarné cette nécessité démocratique, qui ont fait retour sur le devant de la scène mémorielle. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense en particulier à la grande figure de Larbi Ben Midi, je pense à la grande figure de Maurice Audin, sur lesquels on aura l'occasion peut-être de revenir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les jeunes Algériens ne veulent pas, disons, de la suite d'un trop-plein d'histoires falsifiées avec lesquelles on les a élevés, entre guillemets, pendant des années, mais peut-être d'entrevoir la possibilité d'une histoire plurielle, d'une histoire différente, d'une histoire qui soit celle et qui nous fasse avancer vers plus de démocratie politique.
Vous écrivez dans votre livre « Tour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, Benjamin Stora », que l'Algérie est une société du refus. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ?
Bah, c'est une tradition quand même de la société algérienne que de s'inscrire dans une histoire, dans une matrice révolutionnaire. La révolution française, la révolution kémaliste, la révolution nassérienne, le nationalisme arabe. On a comme ça toute une série de points de repère historiques dans les imaginaires collectifs qui sont en rapport avec des situations de refus et de rupture de la société. N'oublions pas, par exemple, que la guerre de conquête française de l'Algérie a duré 35 ans. Chose qu'on ne sait pas beaucoup en France, c'était très très long. La guerre de conquête était très longue et elle a permis d'ailleurs, par parenthèse, de construire ou de fabriquer ou d'unifier, disons, cette nation qui n'existait pas de la même façon qu'elle l'était avant 1830. Donc on a par conséquent aussi la fabrication d'une nation qui s'est opérée aussi par l'engagement, par la guerre, par la rupture avec le système établi. C'est l'émergence de l'État-nation en Algérie, dans sa forme actuelle, bien sûr, s'est faite par la guerre d'indépendance.
Et aujourd'hui, peut-on parler d'une société unie, d'une nation, ou est-elle profondément en division ? On parle de fractures sociales et territoriales énormes.
C'est tout le sens du mouvement en cours. Est-ce qu'on va vers le fait de faire nation pour dépasser les clivages existants et qui existent, les fractures qui existent dans la société algérienne, faire nation, ou bien au contraire, et ça c'est une hantise bien sûr d'un certain nombre d'Algériens, faire en sorte que la nation au contraire éclate. Ce qui fait que beaucoup d'Algériens s'accrochent à cette idée de faire nation, et c'est pour ça qu'ils brandissent aussi beaucoup le drapeau algérien lui-même.
Notre invité aujourd'hui, l'historien spécialiste de l'histoire de l'Algérie, Benjamin Stora, qui vient tout juste de publier à quelques jours du premier anniversaire du mouvement de contestation en Algérie, retour au pluriel d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, qui vient de paraître donc aux éditions Bayard. Et nous sommes en ligne avec l'écrivain algérien Kamel Daoud. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes l'invité du festival Maghreb Orient des Livres qui se tient en ce moment à l'Hôtel de Ville à Paris. Vous y avez prononcé hier la conférence inaugurale sur un thème qui pose une question qui peut paraître surprenante parce qu'on avait l'habitude d'entendre plutôt la question dans l'autre côté. On avait l'habitude d'entendre que faire du colonisé et vous avez posé cette question, que faire de l'ex-colonisateur ? Qu'entendez-vous par là, Kamel Daoud ?
Je pense que c'est une question qui se pose d'elle-même. Elle conditionne notre propre vision, elle conditionne notre rapport à l'autre. Je pense que si pendant des siècles, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut décoloniser après l'avoir vaincu, est-ce qu'il faut l'exterminer, le tuer, l'enfermer dans des camps, le folkloriser, le convertir religieusement? Je pense que maintenant, avec l'immigration, avec la mondialisation, entre guillemets, avec les voyages, avec les rencontres, avec les livres d'histoire, on se pose déjà la question de qu'est-ce qu'on fait de l'ex-colonisateur. Est-ce qu'il faut lui pardonner? Est-ce qu'il faut avoir des relations avec lui, faire du commerce? Est-ce qu'il faut habiter chez lui? Est-ce que, d'autant plus que cette question, elle est liée à une autre, celle de la construction, de la confection du prétexte dans nos pays, du prétexte de la colonisation pour tout expliquer et expliquer nos désastres et nos échecs.
Vous connaissez bien Kamel Daoud, la France, vous y venez souvent, vous écrivez régulièrement dans les pages, dans les colonnes du journal Le Point. Vous diriez que la colonisation elle est toujours un impensé de la France et des relations franco-algériennes, et vous comprenez à ce titre-là qu'Emmanuel Macron veuille en faire la guerre d'Algérie la prochaine étape de sa politique mémorielle?
Je le pense à l'extrême. J'ai l'impression qu'on vit dans une situation où d'un côté il y a une amnésie et de l'autre côté il y a une hypermnésie. D'un côté on veut oublier et de l'autre côté on ne fait que se souvenir au lieu de commencer à travailler, à construire et à bâtir une conscience du présent. Donc je pense que pour les deux pays il est essentiel d'avoir un rapport sain à ce passé-là. En Algérie nous avons besoin de sortir du culte de la mémoire pour aller vers la responsabilité et de quitter le confort du post-colonial. C'est devenu un confort universitaire, un confort éditorial, mais un confort de militant aussi que de ne parler que de la mémoire. Et je pense en France qu'il y a quelque part, j'ose le dire, un chantage au nom de la mémoire aussi. Je pense que la France ne pourra jamais résoudre la question du communautarisme confessionnalisé si elle ne dissocie pas le religieux du chantage à la mémoire aussi. Certaines élites font la promotion du communautarisme en France et le confessionnalisme au nom de la culpabilité par rapport à l'histoire. Je pense qu'il faut couper l'herbe sous ceux qui font cette promotion-là en osant affronter la question de l'histoire et la solder une fois pour toutes.
Benjamin Stora.
Il faut effectivement solder la question de l'histoire, mais encore faut-il l'apprendre, cette histoire. Il faut la connaître, cette histoire en France. Or, le problème, c'est qu'on la connaît mal, on la connaît pas. Elle est très peu enseignée dans l'histoire française. Kamel Daoud peut-être connaît mal l'existence, le fonctionnement de l'éducation nationale française. J'ai moi-même écrit dans La gangrène et l'oubli en 1991 ce qu'il vient d'énoncer, c'est il y a 30 ans, où je disais l'Algérie, effectivement, a beaucoup trop enfermé dans ce culte de la mémoire, donc une sorte de survalorisation mémorielle, alors que la France a du mal à entrer dans sa mémoire coloniale. Or, le problème, c'est qu'elle n'est toujours pas entrée. Lorsque vous avez un film qui sort, lorsque vous avez un livre qui paraît, il y a tout de suite le chantage à la repentance. On n'a pas le droit, parce qu'attention, on risque la repentance. Dès que quelqu'un dit, eh bien, il faudrait peut-être examiner tel ou tel aspect de la politique coloniale, on discrédite cette parole. C'est-à-dire qu'on discrédite immédiatement. J'ai moi-même été victime de cela dans 4 pages, dans un journal qui expliquait effectivement que je voulais, par mes travaux sur l'histoire de la colonisation, réhabiliter, disons, la repentance ou autre. Alors que mon propos a été toujours, depuis encore une fois 40 ans, de faire de l'histoire de la colonisation. Et c'est précisément ceux qui aujourd'hui tentent de faire cette histoire de la colonisation en France, parce que moi je vis en France, et je parle de ce dont je connais, eh bien ont du mal à faire entendre leur voix, ont du mal à faire en sorte que des promotions d'émissions de radio sur des grandes chaînes comme France Culture, de grandes émissions de télévision sur des grandes chaînes de télévision, sur des projets culturels, je viens d'en déposer 2 cette année, deux projets sur l'histoire de l'immigration algérienne en France, qui ont été refusés par exemple. Les éditeurs sont très frileux, font des tout petits tirages d'exemplaires. Vous savez, vous avez parlé de mon livre Tour d'Histoire, il n'est tiré qu'à 3000 exemplaires. Comment voulez-vous que moi, avec des tirages à 3000 ou 4000 exemplaires, je puisse concurrencer des ouvrages pamphlétaires qui eux tirent à 100 000 exemplaires? Donc il y a une inégalité à ce niveau-là. Une inégalité dans l'accès aux médias, inégalité dans l'accès aux maisons d'édition, inégalité dans le fait, disons, de discuter réellement de l'histoire coloniale. Et c'est de cette inégalité-là que moi, je suis, en France, engagé dans ce type de bataille. Ne confondons pas les batailles.
Kamel Daoud.
Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Benjamin Stora, dont j'admire énormément le travail. Et c'est pour ça que je parlais dès le début d'amnésie d'un côté et d'hypermnésie de l'autre. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce refus de l'histoire, ce refus de narrer l'histoire, se retrouve de part et d'autre. En Algérie aussi, nous n'avons pas droit à narrer la vraie histoire. Nous avons droit à un récit épique, un récit fantasmé de l'histoire, un récit, disons, de légitimité pour le pouvoir, mais qui n'est pas la narration de l'histoire exacte telle qu'on aurait voulu l'apprendre. Personnellement, je n'ai commencé à comprendre et à apprendre le parcours de grandes figures de l'indépendance algérienne comme Messalil Hadidov qu'à peut-être 30 ans. Tout ce qui a été fait avant le FLN est effacé des manuels d'histoire. Nous n'avons pas aussi accès aux ouvrages. Il y a aussi en Algérie un désert éditorial à propos de ça. Ce que nous avons, c'est un culte de la mémoire, mais pas accès à l'histoire. Et en France, où je ne vis pas effectivement, et sur lequel je ne peux pas me prononcer, j'ai l'impression qu'il y a aussi une amnésie qui est organisée, qui est acceptée, qui est devenue tout à fait naturelle et qui ne sert pas l'intérêt de ce pays-là, à mon avis, à mon humble avis. Donc je partage tout à fait ce que dit M. Benjamin Stora à propos de l'accès au récit de l'histoire, de la vraie histoire, bien que le mot soit maladroit.
Merci beaucoup à vous, Kamel Daoud, invité donc du Festival Maghreb Orient des Livres à l'Hôtel de Ville de Paris qui se tient encore tout le week-end. On y reviendra tout à l'heure et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Benjamin Stora.
Ce que dit Kamel Daoud, c'est vrai, c'est que en Algérie, puisque là on traverse la Méditerranée, parce que moi mon travail, ça a été d'aller d'une rive à l'autre de la Méditerranée. J'ai jamais voulu m'enfermer dans une sorte de nationalisme français étroit ou algérien étroit ou de communautarisme des mémoires. En France, j'ai circulé à travers toutes les mémoires non communautarisées. J'ai écrit sur les Juifs d'Algérie, sur les Pieds-Noirs, sur les Harkis, sur les Appelés et sur les immigrés algériens en France. Et pareil, du côté algérien, j'ai travaillé sur le FLN, j'ai travaillé sur Messali, le MNA, bien entendu. Et j'ai travaillé sur les Berbères. Bref. Ma volonté comme historien était précisément de pouvoir circuler entre toutes ces rives, entre toutes ces mémoires, entre tous ces groupes. Le risque, c'est le cloisonnement. Le risque, c'est la séparation. Le risque, c'est précisément de construire des récits mythologisés, falsifiés, à partir de chacune des souffrances propres qui interdisent un récit commun.
Vous comprenez ce que dit Emmanuel Macron quand, dans l'avion du retour de Jérusalem, il dit donc qu'il veut faire de la guerre d'Algérie la prochaine étape de sa politique mémorielle et qu'il ajoute, oui, la France a laissé cette mémoire aux historiens, mais elle ne l'a pas regardée assez en face, comme si justement lui cloisonnait en disant, il y a de l'histoire aux historiens, puis il y a de l'histoire aux Français. Or, normalement, l'histoire par les historiens doit passer aux Français.
Et c'est toute la difficulté du passage, de la transmission de l'histoire à la société française. C'est ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure dans ce très court débat, qu'on pourrait poursuivre d'ailleurs un jour avec Kamel Daoud, c'est tout à fait passionnant, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. C'est tout précisément l'enjeu, c'est-à-dire la question de la transmission d'un savoir académique auprès d'un large public. Or, le problème, c'est qu'en France, sur l'histoire de la colonisation et de l'Algérie en particulier, il y a beaucoup d'idéologues pamphlétaires qui disent qu'ils sont historiens, que personnellement, j'ai jamais rencontré dans des centres d'archives, dans des séminaires, dans des colloques ou dans des jurys de thèse, et qui s'autoproclament historiens, sur l'Algérie en particulier, qui connaissent pas un mot d'arabe, qui ont jamais foutu les pieds en Algérie, et qui disent, voilà ce qu'a été l'histoire de l'Algérie, voilà ce qu'est la politique de l'Algérie, voilà tout ça. C'est une imposture facile et qui interdit à ce que, véritablement, le savoir académique et historien, encore une fois, je parlais tout à l'heure, des tirages des ouvrages. On n'en parle pas suffisamment des tirages des ouvrages, ça c'est fondamental.
Mais c'est ce qui fait du coup que vous multipliez les ouvrages, Benjamin Stora. Là, vous avez écrit d'ailleurs la préface à un livre qui tombe à pic, on peut le dire comme ça, Décolonisation française au pluriel, sous la direction de trois historiens, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire chez La Martinière. Vous signez donc la préface de ce livre, dont Achille Mbembe, l'un des très grands intellectuels aujourd'hui, africains, contemporains, signe la postface. Il estime, Achille Mbembe, je vais le citer, « La France doit penser de manière critique l'histoire de la colonisation, puis celle des indépendances, parce qu'il y a urgence, parce qu'elle a décolonisé sans s'auto-décoloniser. Elle doit désormais écrire ce qui n'a pas été écrit ni dit. Elle doit décoloniser son histoire et sa mémoire. Il est désormais temps. » Message qui s'adresse d'abord justement au président de la République et au gouvernement, mais aussi à nombreux pans de la société française qui considèrent que dès qu'on travaille à cette question, on est dans la repentance.
Vous savez, à force de prendre du retard dans l'écriture d'un récit d'histoire réel, à force de prendre ce retard, eh bien fleurissent les récits identitaires, communautarisés et falsifiés. Et c'est ça le grand problème, c'est que plus on prend du retard à regarder en face cette histoire, et plus les apprentis sorciers de la guerre des mémoires vont devenir forts. Donc il faut investir ce terrain historique, et je crois que sur ce point, on a fait un mauvais procès au président de la République lorsqu'on a voulu faussement dire qu'il avait comparé, par exemple, la guerre d'Algérie à la Shoah. Il n'a jamais dit ça. Donc vous savez, ce type de faux procès, j'en suis moi-même victime depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut parler de tous ces groupes et qui ont souffert pendant la guerre d'Algérie et de restituer une pensée historienne, on est tout de suite mis en cause. On est tout de suite mis sur un bûcher, pratiquement, et on n'a pas le droit d'en parler, hein, du post-colonial, de la question de cette histoire particulière et singulière, de l'histoire de l'Empire, l'histoire du nationalisme français lié à la question de l'Empire, toutes ces graves et grandes questions, qui étaient d'ailleurs discutées dans les années 60 par les grands historiens français, comme Pierre Nora ou Raoul Girardet. Tous ces historiens en avaient déjà discuté. Mais 60 ans plus tard, eh ben c'est très difficile d'en parler. Alors là, si on n'en parle pas, ben d'autres le font, et qui sont des groupes communautarisés et identitaires.
Benjamin Stora, il y a une semaine, vous avez quitté vos fonctions de président du Conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée, à Paris. Quel bilan tirez-vous de ces 6 ans passés à la tête du musée ?
En quelques mots, parce que ces 6 ans, c'est très long. Ce que j'avais pour objectif, c'était de tirer ce lieu magnifique, le Palais de la Porte Dorée, un petit peu de l'oubli ou de la relégation. Il n'était pas très connu. Je pense que j'y suis un petit peu parvenu quand même. On parle beaucoup plus maintenant du musée de l'immigration. Je voulais aussi organiser à l'intérieur de ce lieu magnifique des débats entre intellectuels. J'en ai organisé un grand nombre avec Régis Debray sur les frontières, avec Pierre Nora sur l'histoire de la mémoire coloniale, avec bien sûr Michel Vievorka. Enfin, je vais pas citer l'ensemble d'intellectuels français qui sont venus discuter de la question migratoire au Palais de la Porte Dorée, ce qui a donné, bien entendu, le fait que ce musée trouve un ancrage. Gérard Noiriel a été mon dernier débat avec lui, c'était la semaine dernière, donc vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu. Donc ça, c'était mon deuxième objectif, et puis le troisième, bien sûr, c'était de faire des expositions grand public pour intéresser l'ensemble des Français, avec des succès d'expositions indéniables comme Paris-Londres, magnifique exposition à partir de la musique, l'exposition sur Ciao Italia, sur l'histoire de l'immigration italienne en France.
Bon, il va rester des choses à faire avec votre successeur, François Héran.
Bien sûr, puisque moi je prépare comme commissaire une prochaine exposition en 21 sur histoire des relations entre juifs et musulmans dans la France d'aujourd'hui.